Jeudi dernier, l'association régionale communautaire francophone de Saint-Jean, l'ARCEF, recevait les résultats d'une étude menée par l'Institut de la recherche des données et de la formation du Nouveau-Brunswick, l'IRDF-NB. Le rendez-vous était donné au salon Irène Grande-Guerrette à Saint-Jean, c'est à l'intérieur du centre communautaire que ça se passe. On retrouvait parmi les personnes présentes des membres de Horizon, de la société Santé Mieux Être en Français du Nouveau-Brunswick, ou encore de l'association des aînés francophones du Nouveau-Brunswick. On a pu étudier les profils des personnes qui demandaient des services en français dans les services de santé de la province et certaines différences ont été mises en lumière en comparaison avec ce qui peut se passer pour les anglophones de la province qui ont besoin de services, notamment dans les services de longue durée. Toutes ces données révélées par cette étude sont disponibles publiquement sur le site internet de l'ARCEF de Saint-Jean, arcef.ca. On a commenté ces données avec Gilles Viennot, président de la société Santé Mieux-Être du Nouveau-Brunswick, mais également avec Norma Dubé, présidente de l'association des aînés francophones du Nouveau-Brunswick. Que faut-il retenir ? À quoi vont servir les résultats de cette étude? On fait le point en commençant par Norma Dubé.
Donc aujourd'hui, je représentais l'Association des aînés francophones du Nouveau-Brunswick, mais aussi membre très active de l'Association des francophones, des aînés francophones de Fredericton pour le mieux-être et l'apprentissage. Donc deux différentes perspectives. Et puis aussi venir soutenir, appuyer nos collègues, nos amis ici dans la grande région de Saint-Jean qui, sur le côté linguistique, ont bien des défis semblables à ce qu'on vit de façon quotidienne à Fredericton. Je retiens qu'on a sans doute fait du progrès au courant des années, mais mon Dieu, qu'il nous reste encore un bon bout de chemin à faire pour s'assurer que les francophones reçoivent leurs services de santé. Et du point de vue des aînés, je suis encore très, très, très préoccupée par tous les services de soins de longue durée, qui va être une demande agrandissante avec le vieillissement de la population, mais aussi de reconnaître le contexte de ces services-là en français. Le contexte à Saint-Jean est très différent que le contexte, par exemple, à Moncton ou dans la péninsule ou à Fredericton. Et puis, je pense qu'on oublie souvent ce contexte-là. Mais on a entendu parler beaucoup de Horizon, la Régie régionale de santé Horizon. Aujourd'hui, ils font du beau travail avec les outils qu'ils ont. Je pense qu'on a réussi quand même à faire le message que avancer à petits pas, des fois, on manque de patience. À mesure qu'on vieillit, par exemple, la langue de service devient un facteur très, très, très important parce que nos aînés, le côté linguistique, mais ça devient un facteur de vulnérabilité. Puis je pense à ceux, à nos francophones qui sont dans les foyers de soins, sans doute anglophones ici à Saint-Jean, comme nous à Fredericton, et qui perdent leur deuxième langue si jamais qu'ils n'ont eu un peu. Mais mon Dieu, que ça doit être difficile comme qualité de vie et de se faire comprendre dans le quotidien. Premièrement, on pense que tous les francophones du Nouveau-Brunswick sont bilingues. Ça, c'est pas nécessairement vrai. Donc, dans plusieurs cas, on ne peut pas céder à la deuxième langue parce qu'on n'a pas cette capacité-là. Mais pour ceux-là qui l'ont, et je l'ai fait l'expérience personnelle, oui, on va attendre, on va demander, on va exiger, on va attendre, on va attendre, on va attendre jusqu'à temps qu'on perd patience. Et là, on dit, bon, ben, donnez-moi le service en anglais. J'ai besoin du service. C'est pas correct, dans un certain sens, parce que l'exemple que je donnais du 45 minutes d'attente, mais si je veux faire une différence, j'aurais dû attendre une heure et demie, deux heures. Et puis, c'est souvent dans ce contexte-là qu'on peut pas faire prévaloir nos points parce qu'on change trop vite à l'anglais.
Alors, il y a, je sais que ça concerne tant les aînés que les gens qui ont des enfants en bas âge.
Absolument.
Parce que souvent, pour le coup, quelqu'un qui va se retrouver à l'urgence avec un petit qui a besoin d'être pris en charge rapidement peut aussi avoir le même réflexe finalement de basculer sur l'anglais. Qu'est-ce qu'il faudrait pour éviter ça?
Il n'y a pas une réponse à cette question-là, il y a une multitude de réponses. Et puis, oui, on est tous conscients de la pénurie du personnel à tous les niveaux de nos systèmes de santé, nos systèmes de soins de longue durée. Même en éducation, on est au point où qu'on va fermer des salles de classe parce qu'il n'y a pas de remplaçants, etc., etc. Mais à un moment donné, il faut aussi peut-être mettre une priorité sur la langue. On accueille des gens d'un peu partout et puis il faudrait s'assurer qu'on peut leur offrir des services de qualité. Une des suggestions qui a été discutée lors de la présentation, c'est même sur notre carte d'assurance maladie, que ça serait indiqué notre langue maternelle et la langue de préférence à recevoir nos services. Qui mettrait un peu la responsabilité sur les épaules du système, lorsque je présente ma carte, de tenter, tant pis que mal, à m'offrir le service dans la langue de choix. Aujourd'hui, la responsabilité est sur mes épaules en tant que patiente ou cliente de dire « je veux » ou « j'exige ». Il faudrait peut-être tourner ça de bord un peu.
La dernière fois qu'on s'était vu, qu'on s'était parlé, c'était devant l'Assemblée législative
oui.
Il y a quelques semaines, là.
Oui.
Est-ce que c'est le moment d'aller frapper à la porte là-bas et de leur dire « prenez ça en charge »
On frappe à la porte souvent. Elle n'est pas toujours ouverte. Ou quand elle est ouverte, je dois dire qu'au niveau des fonctionnaires, au niveau des partis d'opposition, l'accueil est souvent chaleureuse, mais ce n'est pas nécessairement là le site de l'action. La prise de décision est faite ailleurs. On tente, tant pis que mal, de ne pas se décourager, mais il y a des jours qu'on doit se dire « Mon Dieu, c'est difficile de vivre chez nous quand il y a encore ces débats-là. » Et puis, moi, j'ai grandi à Moncton. J'ai grandi dans les années du fameux Marilyn Jones et puis tout le débat linguistique qui s'est passé dans ce contexte-là. Qu'est-ce qui se passe au Nouveau-Brunswick présentement a tendance à diviser les deux groupes linguistiques encore bien plus que qu'est-ce qui s'est passé dans le passé. C'est triste. La force, c'est d'être ensemble. La force, c'est pas de se diviser. Mais malheureusement, on a des instances gouvernementales tout de suite qui semblent mieux privilégier, diviser.
On écoute maintenant Gilles Viennot, président de la société Santé Mieux-Être en français du Nouveau-Brunswick. Qu'est-ce qu'on retient de cette présentation aujourd'hui?
Je pense qu'une chose qui a été évidente d'abord, c'est comment les données nous permettent d'avoir un portrait beaucoup plus juste de la situation. On s'est rendu compte, par exemple, que il y a une différence quand même substantielle entre le nombre de personnes qui se déclarent francophones au recensement versus le nombre de personnes qui demandent un service en français lorsque vient le temps de demander un service de santé et les gens qui reçoivent un service en français. Donc, on part de 1 % à 1,4 et ensuite à 4 quelques %, qui représente évidemment le pourcentage de francophones dans la région de Saint-Jean. Donc, on peut voir tout de suite qu'il y a un assez grand décalage entre la langue maternelle de la personne et sa capacité à soit vouloir ou à obtenir un service dans sa langue. Ça, c'est vraiment la première chose qui nous saute aux yeux. La deuxième chose, c'est simplement avoir certaines données précises, des données dures, comme on dit, substantielles, qui permettent vraiment de commencer à tracer un portrait sociodémographique, puis ensuite, on est en mesure, par exemple, de voir dans un des graphiques que la population de Saint-Jean francophone est composée d'un assez grand pourcentage de personnes qui sont dans le dernier percentile en termes de revenus, dans le percentile le plus bas, et à l'autre extrême, une autre bonne proportion sont dans le percentile le plus haut. Donc, c'est complètement contraire à la courbe normale où on devrait avoir un nombre assez bas de personnes qui sont dans la pauvreté, un nombre assez bas qui sont plus dans la richesse. Donc ça, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que les personnes, par exemple, on a des personnes qui sont probablement des gens qui travaillent et qui sont dans la pauvreté. Et de l'autre, à l'autre extrême, on a des gens avec des études assez avancées et un niveau de vie un peu plus élevé, probablement parce qu'ils sont dans la fonction publique provinciale ou fédérale et sont un couple bilingue avec une formation postsecondaire. On peut s'imaginer, parce que c'est à peu près ça que ça voudrait dire. Alors que dans la population anglophone, c'était tout à fait égal. Les 5 percentiles suivaient la courbe normale du Nouveau-Brunswick, alors que la communauté francophone, il y a quelque chose là. On ne sait pas évidemment ce que ça veut dire, mais on va évidemment, je pense, creuser un peu plus pour le trouver.
Alors, une fois qu'on a ces données, en fait, on en fait quoi? Est-ce qu'on a déjà des idées de solutions à proposer, des choses comme ça?
Définitivement, parce que je pense que le but de l'ARCEF, nous, on travaille avec l'ARCEF comme partenaire depuis une vingtaine d'années, mais le but de l'ARCEF, c'est de vraiment tenter de découvrir ou de trouver. Est-ce qu'il y a des pochettes? Bon, on a beaucoup plus de facilité à trouver les gens qui sont impliqués, les gens dont les enfants viennent à l'école, on les connaît, la plupart habitent même à l'extérieur de Saint-Jean, et ce qui est un défi lorsqu'on veut organiser des activités. Mais les gens qui habitent le Grand Saint-Jean, qui sont dans le downtown, dans le Saint-Jean-Nord, des gens qui sont à revenus beaucoup plus moyens, qui n'ont pas de formation collégiale ou universitaire, qui ne participent pas, dont les enfants ne viennent pas à l'école ici, s'ils en ont, qui ne participent pas aux activités de la communauté parce que probablement, comme j'avais des gens de ma famille qui habitaient ici, ne savaient même pas qu'il y avait une communauté francophone à Saint-Jean parce qu'elle est dans cette partie de la ville ici. Si on la connaît, on va y aller, mais si on ne la connaît pas ou qu'on n'a jamais été sensibilisé, ça devient difficile. Je m'en souviens pour ma part d'avoir habité à Vancouver pendant 5 ans et on tentait de rejoindre la population francophone de Vancouver, les franco-colombiens, dans le Grand Vancouver. Et annonce après annonce sur les radios de Radio-Canada, dans le journal francophone, aucun succès. On s'est mis à annoncer dans les journaux anglophones et la radio anglophone, puis on les a trouvés tout de suite, parce que ces gens-là consommaient les produits anglophones en matière d'actualité, puis en matière de radio, puis d'information. Donc, des fois, c'est devant nous, mais on ne les voit pas, puis on pense que parce qu'on est francophone, on va essayer de les atteindre en français. Il y a peut-être d'autres façons de les atteindre. Mais lorsqu'on est capable de trouver ces endroits-là où il y a une agglomération assez importante, où il y a un nombre plus important, là, ça devient intéressant d'être capable de parler aux autorités pour dire, bien là, on peut voir que dans ce quartier-là, par exemple, bien, les déterminants sont ceci, les incidences sont cela, les maladies chroniques sont comme ceci. On a un meilleur portrait et en plus, ensuite, on peut diriger les gens vers les services et les services peuvent accueillir ces gens-là parce qu'ils savent qu'ils vont venir, on va les trouver, on va les identifier.
Alors, j'ai entendu que vous en parliez tout à l'heure pendant la réunion. Il y a des endroits où il y a des bons élèves à Saint-Jean. Vous parliez, par exemple, du service cardiaque à l'hôpital régional, oui. Où là, pour le coup, ça se passe bien.
Oui, 20 ans, 25 ans d'efforts de la haute direction pour s'assurer de la capacité du centre cardiaque de Saint-Jean d'être en mesure de desservir la population. Le centre cardiaque, évidemment, a un mandat provincial. Donc, on se retrouve au centre cardiaque exactement avec la proportion démographique. On a à peu près 30 % de la population qui aboutit au centre cardiaque qui sont des francophones, dont une bonne majorité sont des francophones qui n'ont pas une très bonne connaissance de l'anglais, et à peu près 70 % d'anglophones. Donc, la haute direction s'est rendue compte assez rapidement, voilà 25 ans, que de la nécessité d'établir un système, une approche qui allait faire en sorte qu'on était en mesure de desservir les deux communautés linguistiques. Et maintenant, rares sont les personnes, je vous le donne au défi, rares sont les personnes qui, francophones qui ont reçu des services du centre cardiaque qui se disent « non, j'ai vraiment pas eu de problème à me faire servir dans ma langue. » Dans un moment de la vie, lorsque j'étais au centre cardiaque, c'est pas pour se faire enlever des amygdales. Disons que ça peut aller très, très mal. On sait que ça peut être la fin des émissions. Donc, l'anxiété, nervosité, tout ça, évidemment, augmente le niveau de stress énorme pour les patients. Puis, le fait d'être en mesure de recevoir cette assurance-là que on va se faire servir dans la langue, diminue excessivement le stress et améliore la capacité pour la personne de guérir, évidemment.
C'est quoi la suite avec ces données? Est-ce qu'on va, avec ces data, on va aller frapper à la porte du Premier ministre? Il aime ça?
Ça serait peut-être la chose à faire. Je crois que le premier ministre aime ça, les gens qui frappent à sa porte, mais c'est pas la chose qu'on va faire. La chose qu'on va faire avec ces données-là, c'est évidemment continuer de creuser un peu plus, trouver les liens, faire les liens entre les différents tableaux, les différentes données, établir des plans, établir des plans avec les autorités de santé, travailler à développer ces plans-là, travailler à la mise en œuvre de ces plans-là et travailler à l'évaluation de ces plans de livraison de services-là. Je crois qu'on a tous les moyens technologiques et techniques, surtout avec l'Institut qui fait un travail assez intéressant au niveau de la collecte de données et de l'interprétation de ces données-là. Nous, évidemment, les gens qui sont dans le développement communautaire en santé, notre travail, c'est de continuer à influencer. On a pu voir dans la discussion tantôt que on pense que les gens sont quand même... On a passé l'étape de sensibilisation. On est à l'étape de consolidation un peu. Et là, les leaders du côté anglophone, eux, leur défi, c'est de continuer à contaminer ou à répandre dans leur organisation que ce ne sont pas des gens qui sont mal intentionnés parce qu'ils demandent un service dans leur langue, c'est parce qu'ils veulent avoir un service de qualité puis un service sécuritaire. C'est aussi simple que ça. Puis en plus, ben, ça donne qu'au Nouveau-Brunswick, c'est un de nos droits, qu'on a le droit à ce service-là. Mais travailler avec le droit, souvent, ça donne des réactions très brutales ou très négatives, souvent de l'autre côté, parce qu'on sent une résistance. Alors que lorsqu'on parle de sécurité puis de qualité du service qui s'est relié à la langue de communication, on se rend compte que ça, c'est une préoccupation majeure du service de santé parce qu'ils sont évalués sur ces critères-là de façon continue par Agrément Canada et ils se doivent d'être en mesure de rendre compte de leurs travaux qu'ils font.
La dernière fois qu'on s'était parlé, vous m'aviez dit que réussir à se comprendre avec le soignant, c'est déjà le début de la guérison. On est sur cette ligne-là toujours.
Tout à fait. On ne peut pas diminuer ou sous-estimer l'importance de la communication dans un service de santé. Et ça m'amène peut-être en terminant sur toute la question des personnes âgées au Nouveau-Brunswick, nos aînés qui sont dans des foyers de soins dont la plupart sont à revenus. Ce sont des foyers de soins lucratifs. Ça peut représenter un grand problème au niveau... Lorsqu'on vieillit, que ce soit l'Alzheimer ou la démence, souvent nous fait perdre notre deuxième langue ou même nous fait perdre notre langue première, notre langue maternelle. Donc, on se doit d'être très, très, très sensible à cet aspect-là. Et le fait que tous les foyers de soins, ou presque tous, sont sous autorité privée, c'est inquiétant pour le Nouveau-Brunswick puis pour la qualité des soins qui vont être offerts à nos aînés parce qu'ils n'ont pas de contraintes au niveau de la langue. Et je pense que c'est... On ne devrait jamais appeler ça une contrainte au niveau de la langue. C'est plutôt une qualité de la part d'un service d'être en mesure de le desservir. Donc, beaucoup de pain sur la planche, beaucoup de défis. Puis nous, la Société Santé Musée-Être en français, comme partenaire avec l'Archève de Saint-Jean, sommes très intéressés. D'abord, on va faire beaucoup de publicité pour cette étude-là à travers le pays, parce que beaucoup de ce qui se passe ici à Saint-Jean ressemble énormément à ce qui se passe dans la plupart des autres provinces et territoires au Canada, dans les centres urbains comme dans les centres ruraux, beaucoup plus que le reste du Nouveau-Brunswick ressemble à Saint-Jean. Donc, si on s'en va à Toronto, si on s'en va à Winnipeg, si on s'en va à Saskatoon, etc., on se retrouve dans des milieux qui ressemblent vraiment à ceux de Saint-Jean, 4 % de la population, etc., etc., etc. Donc, on pense que ce modèle-ci pourrait être certainement transférable. Le modèle d'étude qui a été fait ici est transférable à d'autres régions. Et c'est lorsqu'on fait ces choses-là ensemble que là, ensuite, on sent qu'il y a un mouvement, il y a une levée, puis les choses avancent. Il faut être patient dans le développement communautaire. Je pense que je suis rendu à mon 9e ministre de la Santé depuis que je travaille dans 18 ans. Donc, on est là plus longtemps qu'eux autres, puis c'est pour ça qu'on continue à travailler.
Encore une fois, tous les résultats de cette étude sont disponibles en ligne sur le site de l'ARCEF, arcef.ca. Ici Sébastien Caron pour IGL à Saint-Jean.